France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1970, Michel Piccoli racontait André de Richaud. André de Richaud, poète, romancier, dramaturge, né en 1907, personnalité en vue du Paris littéraire de l'entre-deux-guerres, célèbre et célébré très jeune par Delteil, Camus, Bernanos, Mauriac, dès ses premiers livres au début des années 30, La création du monde, La douleur. Il cessa pourtant peu à peu de publier pour sombrer dans une déchéance misanthropique et très alcoolisée, mais sans avoir jamais tout à fait cessé d'écrire pour autant. Clochard céleste entend le Saint-Germain-des-Prés des années 50, poète dont on croyait trop souvent avoir tout dit en le qualifiant de maudit, André de Richaud devait mourir au début de l'automne 68, et ce fut sans doute à la fidélité de ses amis écrivains et artistes qu'il dut de ne pas disparaître plus tôt. Grâce au soutien de Michel Piccoli notamment, qui, très proche de lui, veilla sur ses dernières années. Dans l'archive que nous allons entendre, le comédien disait ce qu'avait été leur amitié. Lisant quelques pages extraites de son œuvre, il dessinait là le portrait affectueux de l'homme et de l'écrivain André de Richaud, tel qu'il l'avait connu, aimé et accompagné jusqu'au bout de son existence torturée. André de Richaud, poète maudit, par Michel Piccoli, une émission diffusée la première fois en 1970.
Moi, j'ai rencontré de Richaud grâce au théâtre, parce que je jouais dans une pièce qui était formée de trois pièces. Il y avait une pièce de Calaferte, une pièce de Georges Arnaud et une pièce d'André dans laquelle je ne jouais pas, d'ailleurs, qui s'appelait Les Reliques, qui était jouée par Pascal Mazetti, un autre ami d'André, une sorte de chef-d'œuvre. Et j'ai découvert André de Richaud grâce à ce spectacle. Et aussi grâce à Buñuel qui est venu une fois voir donc ce spectacle, et qui après, autre sauvage que ce Buñuel, m'a dit « Écoutez, j'ai depuis très longtemps une grande admiration pour André de Richaud, est-ce que vous auriez la gentillesse de me le présenter ?» Alors j'ai présenté André de Richaud à Buñuel, et c'est grâce à ça que pendant un court instant, nous avons fait une espèce de trio infernal, comme ça, Buñuel, de Richaud et moi. De Richaud, Buñuel voulait tourner La Barrette Rouge de Richaud, mais il a toujours hésité parce qu'il a dit « Ce qu'il a écrit est tellement mieux que ce que je pouvais faire que j'ai abandonné. » Alors, je dis ça à De Richaud, enfin, De Richaud le savait, et il pensait que peut-être Buñuel aurait été celui qui aurait pu faire éclater son œuvre, comme ça, d'une façon un peu plus populaire. Parce qu'en fait, De Richaud est mort... On disait de lui dans des revues célèbres, on disait « Heureusement, il nous reste encore un poète maudit. » Se trouvait dans ce qui avait été sa chambre. Il se tourna vers la fenêtre. Et alors là, il vit quelque chose qui dépassait tout. Il neigeait, en plein mois d'août, sans préparation, comme je vous le dis. L'homme étouffa un cri de surprise et presque de satisfaction. Il semblait que la terre tournait doucement dans l'espace. Cyprien était heureux. Oui. Cette neige serait son linceul. Elle lui commandait de partir, d'aller se purifier en elle. Foin des bûchers et des rayons dévorants du soleil, foin d'une pourriture asiatique et théâtrale, il marcherait dans cette chose blanche jusqu'au bout de ses forces. Et il s'étendra doucement comme un enfant. Il serra entre sa chemise et sa veste son manuscrit, c'était la seule chose qu'il pouvait emporter. Il s'enfonçait dans la campagne, sans oser regarder la maison qu'il abandonnait. Une vie nouvelle s'ouvrait à lui, vierge, comme cette campagne blanche, faite comme elle pour être souillée de pas, comme la divine pureté du papier qui est faite pour être salie par les pattes de mouche gluantes du poème. Il avait des cheveux blancs, il avait des oreilles décollées. Il avait souvent le col de chemise comme ça, un peu débraillé. Et pourtant, ce n'était pas un individu débraillé. André de Richaud, on dit, c'était un poète. C'était une espèce de seigneur, c'est un clochard de luxe. C'était un clown. Parce que tout le monde dit que de Richaud buvait, je ne sais pas s'il buvait. Est-ce qu'il buvait ? Il était complètement alcoolique, c'est vrai. Mais on disait de lui qu'il était homosexuel. Que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire homosexuel. Je n'ai jamais été homosexuel. Mais je suis tombé amoureux d'André de Richaud. Et André de Richaud est tombé amoureux de moi. Voilà. Ça a été, je crois, au début de ma vie et à la fin de la sienne, une espèce de, pour moi, d'éclair, comme ça, de découverte de la langue française, de l'imaginaire, de la drôlerie et du monde de la mort aussi. Visage de mes 18 ans, qu'êtes-vous devenu ? Et qui serait le plus effrayé de vous ou de moi ? En me donnant un masque abject, une fois pour toutes, Dieu m'a épargné, peut-être, de plus atroces tourments. Il est vrai que, comme vous, je me serais habitué à mon miroir. Non, je ne comprends plus les hommes. Beau visage de ma jeunesse. Je voulais bien voir ce qu'on fait de vous. L'amour, l'ambition, le vice ou la maladie. Et on ne sait pas quand André était vivant ou mort. Je crois que déjà à cet âge-là, il était mort. Son père était mort, pour lui, sa mère était morte. Tous les gens qui ont été autour de lui sont des gens qui, très vivement, ont été morts. Je crois qu'il a tué les gens, d'ailleurs. Il était d'une exigence incroyable vis-à-vis de lui-même et il acceptait aucune compromission de l'existence. À 18 ans, je croyais être descendu jusqu'au fond des confessions de Saint-Augustin et le contrat social n'avait pas de cadenas pour moi. Il va sans dire que je me proclamais absolument athée. Pour mon père et ma mère, j'étais le Dieu qui fait pleuvoir, comme on dit chez nous. Pour les gens raisonnables du pays, sans doute un garnement qui tournerait mal, trop gâté. Pour mes camarades, un modèle d'insolence, de force, de charme, pour les filles, un être irrésistible et dangereux. Je ne sais si jamais un adolescent a goûté la vie comme je l'ai goûté. Non, personne n'a eu des sens éveillés comme les miens. Je me jetais, Sur tout ce qui se mange, se boit, s'aime avec frénésie, j'étais infatigable, j'étais si incroyant et si splendidement vivant que je crois que si j'avais demandé à ma mère, qui est fort dévote, de ne plus aller à la messe, elle m'aurait obéi. Puis qu'un enfant comme le sien peut vivre triomphalement sans Dieu, c'est que... Heureusement, il nous reste encore un poète maudit. Voilà tout ce qu'on arrivait à dire de Richaud, qui, après, avec beaucoup de honte, on peut dire ça et je peux dire ça, nous avons été plusieurs à vouloir l'aider dans la vie. Et on ne peut pas aider des êtres comme Richaud. On peut leur faire des offrandes, mais on ne peut pas les aider. On ne peut pas les aider à vivre afin qu'ils continuent à poursuivre une œuvre littéraire. C'est dégoûtant. Lui-même trouvait ça dégoûtant. Il était invivable, il était insupportable, et il faisait en sorte qu'on l'abandonnait. Et il était dans son asile, à Valoris, là où je l'avais, je croyais, confortablement installé, non pas dans l'asile, mais avant, dans une auberge et dans une chambre. Et puis, petit à petit, il se fait là-bas un royaume à lui, et... Il a aussi abandonné tout le monde. Il se refait un royaume dans cet asile. Il m'écrivait des lettres de désespérance, parce que de Richaud, c'était la désespérance, c'était le clown de la désespérance. Mais quand j'allais le voir, il était souverain, comme dirait un autre collègue à lui, poète, vaillant. Cyprien, pensif, accoudé au mur de l'enclos, pensait au grenier chaud dans lequel son ami vit maintenant presque toute la journée. Les feuilles de mûrier sont étendues sur des claies le long des murs, elles va-et-vient légères dans le crépitement que font les milliers de vers voraces. On plante dans les claies des brindilles de genêt et de bruyère où ils monteront demain faire leur cocon. On a pendu un vieux sac devant la lucarne du grenier pour que le soleil ne vienne pas troubler les bêtes dans leur travail. Elle descend le soir, lasse et heureuse. Dans la nuit, l'émeute prévue éclatera parmi les larves. Ensemble, elles seront prêtes pour la métamorphose et monteront toutes aux branches. Délaissant la nourriture, elles s'élanceront à l'assaut de leurs arbustes. Et demain, quand la jeune fille rentrera dans le grenier, un grand silence neigeux l'accueillera. Les clés sont désertes. De ci, de là, quelque animal trop faible qui n'a pas eu la force de devenir papillon et qu'elle cueillera, grave comme une divinité, pour le jeter dans le feu. Souvenir, souvenir, symbole d'un autre âge. C'était un souverain. Il faisait rire tous ces vieillards cacochimes qui sentaient mauvais, qui étaient autour de lui. Il a été souverain jusque dans la mort d'une façon encore clownesque. Parce que je suis venu à Montpellier quand il était mort. Et quand l'hôpital m'a téléphoné, il a dit « Monsieur, vous venez ?» Je dis « Oui, je viens. » Il m'a dit « Est-ce que vous emmenez le corps ?» J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est André qui me fait encore une farce, là. C'est lui qui téléphone. J'ai dit, ça veut dire? Il me dit, oui, on peut emmener le corps, si vous voulez. Affolé, j'ai dit, j'arrive. Et je suis arrivé trop tard, à 1h du matin, à la morgue de Montpellier. On m'a dit, écoutez, c'est dommage, la morgue est fermée. Sinon, vous auriez pu emmener le corps. Alors, je me revoyais très bien avec de Richaud dans ma chambre d'hôtel et son corps. Là, il m'aurait dit, ah, beau fada, tu vois, tu mens encore sur le paletot. C'était la fête Dieu. Les familles huppées du village faisaient devant leur porte un reposoir dont la grandeur et la somptuosité étaient bien entendu en rapport avec leur fortune. Celui de ma mère était le plus beau de tous. Devant deux draps tendus, un autel surchargé de fleurs avait été dressé. Mon père, monté sur une échelle double, piquait des bouquets dans les draps en quinconce, et moi, je ne pouvais me tenir de rire en pensant que ces mêmes draps avaient vu et reniflé les ébats de mon père et de ma mère en train de me concevoir. Dans le soleil de 10 heures, les cloches sonnaient à toute volée. Le curé, sous le dais, porté par 4 gros du pays, dont mon père, suivi de tous les citoyens en procession, parcourait le tour des reposoirs. Mon père était très petit et boitait, ce qui donnait beaucoup de pente au dais et lui imprimait des mouvements qui, vu du ciel, où tout le calendrier devait être au balcon, ne devaient pas manquer de chic. Je me revoyais très bien avec De Richaud dans ma chambre d'hôtel et son corps, là, il m'aurait dit « Ah, beau fada, tu vois, tu mens encore sur le paletot. » Et puis j'ai dû le mettre dans, le placer, le déposer dans ce qui s'appelle une chambre mortuaire. Il était dans une espèce de chambre luxueuse à Montpellier. On m'avait demandé s'il fallait un peu de musique. Je lui dis « Ça veut dire quoi, la musique ?» Il dit « Oui, c'est peut-être tout de même mieux si les gens viennent rendre hommage à ce monsieur qu'il y ait un peu de musique religieuse, s'entend. » Alors, il faut bien dire que qui est venu rendre hommage à De Richaud à Montpellier ? Il y a eu Madeleine Attal, il y a eu Joseph Delteil, et puis il y a eu moi.
C'était André de Richaud, poète maudit par Michel Piccoli, une émission diffusée la première fois en 1970.